Amen. Alors, on vit dans une génération qui a jamais eu autant la possibilité de s'exprimer. Ça s'est développé sur les dernières décennies. On s'exprime. Et moi, j'étais déjà assez interpellé il y a 5-6 ans quand je voyais la génération juste après moi, constamment sur les réseaux sociaux, constamment en train de commenter, de donner son avis. Mais moi, j'aurais fait comme ceci, moi, j'aurais fait comme cela. Moi, je suis d'accord avec lui, mais pas d'accord avec lui. Et des jeunes qui rentrent dans des combats qui ne savent même pas les leurs. Et ça les remplit, et quand vous les écoutez, vous dites, et moi j'étais impressionné, je me dis, mais moi je passe pas mon temps derrière l'ordinateur, envoyez des commentaires. Il y a quand même un changement générationnel. Et finalement, c'est cette possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Et parfois, on dit beaucoup de choses, mais ça veut pas dire grand chose. Et finalement, on dit pas forcément ce qu'on pense, mais on se vide de ce qui est en nous, de nos émotions, de notre ressenti, de notre mal-être. Et c'est ce qu'on peut voir sur la toile, hein. Beaucoup de haine, beaucoup de ceci, de cela, par rapport à toutes sortes de sujets. Donc une génération qui s'exprime énormément, qui évacue beaucoup de choses qui est au-dedans d'elle, et finalement une génération qui n'a jamais été aussi mal par rapport à son identité. L'identité est un vrai problème aujourd'hui dans le monde. Peu importe à qui vous parlez, aux jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent plus ce qu'ils sont, ce qu'ils deviendront, ce qu'ils veulent faire. On parle d'identité de sexe, on parle d'identité de toutes sortes d'identités, etc., etc. Et les jeunes sont perdus. Et ça rentre aussi dans l'Église. Quel est mon appel? Une fois, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit « Pasteur, je n'ai pas encore découvert mon appel !» Comme si l'appel, le ministère, était le Graal. Ce qu'on doit découvrir par-dessus tout. La quête du chrétien et du croyant. Et ça rentre et on a cette façon de parler. Et beaucoup cherchent leur identité là où Dieu ne l'a jamais déposée. On va chercher notre identité dans notre métier, on va chercher notre identité dans les apparences, dans notre couple. Hein, parfois on voit des personnes qui changent au détour d'une personne et vous ne la reconnaissez plus. Et puis dans le couple, dans la sexualité, on cherche notre identité. On cherche notre identité dans les performances sportives. Moi, j'étais un grand sportif quand j'étais jeune et j'aimais performer. J'aimais toucher mes limites. J'aimais savoir jusqu'où je pouvais aller. Vous voyez, j'avais besoin de sentir ça. Et quand j'ai accepté Christ, j'ai arrêté le sport quasiment de manière drastique. Le problème, ce qui se passe, c'est quand je me remets à faire du sport aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis 20 ans en arrière. Et je cours comme si j'avais 20 ans de moins. Et il m'arrive des petites blessures comme Pierre Wilder, tu vois, on est tous les mêmes. On va au foot et on pense qu'on est encore capable de tout. Et on se blesse, vous voyez. Donc, l'identité, on la cherche au travers de toutes sortes d'activités, au travers parfois de nos enfants. Certains parents se réalisent au travers de leurs enfants. C'est fou. Ce qu'ils n'ont pas pu réaliser, le projettent sur l'enfant. Mais tu seras comme ça. Et tu feras ceci. Et il est important que tu connaisses ceci ou cela. Vous avez déjà connu ça. Peut-être que tu es comme ça, parce que tu as vécu un manque. Tu cours après le fait de préserver ton enfant de ce manque-là. Incroyable. Donc, certains autres vont trouver leur identité dans la réussite financière. Lorsque j'ai réussi, que j'ai atteint un certain statut, je me sens quelqu'un. Et c'est une quête, vous voyez, de tous les jours. On peut se rechercher aussi dans le regard des autres. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu vois de moi? Et c'est important. Et si quelqu'un te dit quoi que ce soit par rapport à toi qui ne te convient pas, mais tu sombres. Parce que quelque part, tu n'as pas l'approbation. Et vous voyez, on est tous quelque part, à un endroit, on a cherché notre identité. Et souvent, ce qui va nous définir, c'est la peur de perdre cette identité-là. Et on va voir que finalement, lorsque tu as peur de perdre cette identité-là, tout ton monde se déconstruit. Et c'est pour ça qu'on va voir des personnes complètement détruites après une rupture. Littéralement. Pourquoi un licenciement peut détruire le moral de quelqu'un? Pourquoi un échec scolaire a détruit la confiance en un jeune? Pourquoi la critique détruit d'autres personnes? Encore, on peut dire que... c'est toujours cet endroit où on a construit notre identité. Si on le perd, tout notre monde s'effondre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça, on est tous passés par là. Quand on était jeune, peut-être plus tard, peut-être quand on a cru atteindre quelque chose, et puis tout a disparu, notre identité est attachée parfois à ces choses-là. Mais quand j'ouvre les évangiles, je suis assez surpris de voir que Christ nous parle très peu de notre identité. Pas beaucoup, finalement. Et on va lire tout de suite un verset qui est assez clair, parce que Jésus n'a presque jamais directement répondu à cette question. Jésus ne vous a jamais dit « Venez, je vais m'occuper de vous et je vais t'apprendre à devenir toi-même ». Il nous a dit quelque chose en Luc chapitre 9, verset 23, quelque chose de très clair. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est une des paroles qui, à mon sens, est la plus dure pour la génération actuelle de chrétiens qui arrivent à Christ. Parce qu'on arrive d'un monde où on te parle que de ton identité, que tu dois te réaliser, etc. Qu'il faut que tu épanches tout ce qui est en toi. Et Jésus te regarde et il dit, si tu veux me suivre, la première chose que tu vas faire, si tu veux être mon disciple, tu peux laisser projeter, renonce à toi-même. Incroyable. Alors j'aimerais qu'on approfondisse ensemble ce passage qui va nous conduire sur deux prédications. Donc je commence aujourd'hui, je termine la semaine prochaine. Donc la réponse de Dieu est étrange. Renonce à toi-même. Donc avant même de te parler de qui tu es, eh bien Jésus veut répondre avant de qui suis-je, avant de répondre à la question qui suis-je. Lui, il cherche à répondre à une question. Il te pose une question. Et c'est important pour nous, les jeunes. Est-ce que vous êtes là? Vous m'écoutez? Les jeunes, avant le « qui suis-je ?», Jésus te dit « qui règne ?». Et ce n'est pas pareil. Qui règne sur ta vie? Qui règne sur ton cœur? C'est la question qui va nous conduire aujourd'hui. Et on peut se la poser déjà maintenant. Qui règne sur mon cœur? Je ne te parle pas de tes principes, je ne te parle pas de tout ça, je te parle vraiment de la question du Père. Donc le premier problème de l'homme, ce n'est pas une question de crise d'identité. Et on essaie de nous faire croire ça. Le monde essaie de nous faire croire ça. Parce que c'est ce qu'on voit. Nous, dans le pastorat, aujourd'hui, on gère beaucoup de problèmes de crise d'identité. Alors on va revenir au fondement. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujétissez, dominez, etc. » Machin, boum boum, on ne va pas aller plus loin. Donc que reçoit Adam? Adam, il reçoit quoi? Une identité avant même d'agir, avant même de travailler, avant même de servir, avant même de réussir, Dieu lui donne une origine. Il lui donne une origine en lui disant « Je t'ai fait à mon image, tu me corresponds, tu me ressembles, tu es comme moi. » Incroyable. Tu es comme moi, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu es fait à mon image. C'est la base. On voit la notion, le désir de Dieu de créer l'homme et la femme semblables à lui. Donc l'identité à ce moment-là est un don, c'est donné. Je t'ai créé, tu es semblable à moi, tu me ressembles. C'est quelque chose qui est donné, c'est pas quelque chose qui est découvert, c'est pas une quête, c'est pas quelque chose après laquelle on court. Je suis fait à l'image de Dieu. Donc Dieu, on peut voir qu'il nous donne, et ce sera tout, à partir de là, on va voir toute l'histoire de l'Ancien Testament, va nous parler que Dieu donne avant, Dieu donne toujours avant de nous demander quoi que ce soit. Il nous a donné notre appartenance, il nous a donné notre filiation, il nous a dit, tu es fait à mon image. Point. Accepte-le. Arrête de courir après autre chose.
Genèse 2, versets 16 à 17. Qu'est-ce qui se passe? Dieu leur dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi cet arbre? Était-il magique? Non. L'arbre représente une réalité. Qui définira ce qui est bien et ce qui est mal? Tant que tu n'y touches pas, Dieu définit les choses. Mais à partir du moment où tu y touches, tu auras la possibilité de dire et de considérer ce qui est bien pour toi ou ce qui est mal pour toi, ce qui est bien pour les autres ou ce qui est mal pour les autres. Tu sais, c'est toi qui deviens le maître de ces choses-là. Et c'est à partir de là où on va voir que quand l'homme a ce pouvoir entre les mains, tout commence à dérailler. La Bible nous dit qu'on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et c'est ce qui nous arrive actuellement. Alors, la question ici, c'est qui aura le dernier mot sur ces choses-là? Genèse 3, versets 1 à 5. Le malin arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Remarquez bien que ici, le malin ne commence pas par proposer un plaisir. Ils n'ont pas besoin d'avoir plus, Adam et Ève. Ils sont dans l'Éden. Tout ce qui est bon est là. Il n'y a pas de contrepartie à ce qu'ils vivent de bon à ce moment-là. Est-ce que tu me comprends? Ils sont dans l'extase. Tous les soirs, Dieu il arrive, il parle avec eux. Tout est bon autour d'eux. Alors, Satan, il ne peut pas leur proposer quelque chose de meilleur. Ce n'est pas possible. C'est mécaniquement pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va semer le doute. A-t-il vraiment dit? Ah! Il sème le doute dans leur cœur. Combien de fois le doute a été semé dans nos cœurs? A-t-il vraiment dit? Il ne dit pas « Dieu veut ton malheur ». Mais il est en train de sous-entendre « Tu peux vivre sans dépendre de Dieu ». Tu peux vivre sans dépendre de Dieu. Et là, ils acceptent. La création se détourne de l'image, de la ressemblance, et dit finalement, je vais décider moi-même. Je vais faire ma vie, je vais faire comme bon me semble. Et tout déraille. Donc, ici, il est une question de devenir son propre roi. Il n'y a plus personne au-dessus de moi, je suis mon propre roi. Mentalité qui s'est énormément répandue en Occident. L'indépendance, l'individualisme, être centré sur toi, sur soi, ses réussites, ses projets, moi, c'est hyper actuel. Et maintenant, on n'en est plus sur le moi, ce que je dois réussir. On s'attaque à notre identité. Est-ce que je suis vraiment ceci? Est-ce que je suis vraiment cela? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Et ça crée des troubles psychiques. Des burn-out exceptionnels, ce qu'on vit actuellement. Les générations d'avant, et quand je parle des générations, c'est les personnes qui ont 70, 80 ans aujourd'hui, se sont jamais posé ces questions. Même, ça n'a même pas effleuré leur esprit. Suis-je un homme? Suis-je une femme? Est-ce que j'aime les hommes? Est-ce que j'aime les femmes? Et ceci, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Où est-ce que je vais mieux me réaliser? Souvent, j'aime bien parler avec Thierry. Parce que Thierry me dit, mais moi, je ne me pose pas ces questions. Moi, je veux servir Dieu, c'est tout. Vous comprenez? Thierry s'est converti, il a dit, Jésus, me voici, je veux te servir, peu importe comment. Il n'a pas commencé, mais où est mon appel? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il n'a pas commencé comme ça. Il a dit, Seigneur, je suis là, tu m'as touché, tu m'as transformé, je veux te servir. Mais aujourd'hui, il y a des questions comme ça qui arrivent, qui nous perturbent. On ne sait plus qui on est. On n'a encore rien fait pour le Seigneur. Qu'on a mille questions. L'identité est attaquée. L'image que Dieu veut de nous est attaquée. Et c'est terrible. Et il faut que nous, Église, on en prenne conscience. Tu dois en prendre conscience quand tu regardes les personnes autour de toi, quand tu regardes l'Église, quand tu votes. Qui es-tu ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça touche toute notre civilisation. C'est incroyable. On est perturbé. Aujourd'hui, il y a une génération de jeunes qui reviennent à la foi de leurs ancêtres. Parce qu'en France, les Français ont abandonné leur foi, ont abandonné les valeurs de la foi. D'abord, ils ont abandonné la foi. Ensuite, ils ont abandonné les valeurs. Maintenant qu'il n'y a plus de valeurs, on se pose des questions. Ben, où est-ce qu'on va ? Ah ben, on est très libre. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à construire. Et Jésus nous rappelle à quoi, et nous, enfants de Dieu, on doit parler de l'identité en Christ. C'est là où Dieu nous attend, c'est là où Dieu se révèle. Imagine un orchestre symphonique. Tout est magnifique. Vous avez déjà vu un orchestre symphonique ? Les jeunes, levez la main, s'il vous plaît, ça veut dire que vous, la culture est incroyable chez vous, que vous écoutez autre chose que la radio. Un orchestre symphonique, c'est magnifique, quand les cuivres et puis les cordes se déploient, et même si ce n'est pas une question de style, c'est magnifique. Et lorsque tu écoutes ça, eh bien, c'est merveilleux comment c'est orchestré. Mais enlevez le chef d'orchestre. Enlevez le chef d'orchestre. Ça n'enlèvera pas la capacité au soliste d'être exceptionnel. Mais il ne saura plus à quel moment jouer. Ça n'enlèvera pas leur capacité, leur talent. Mais ils ne sauront plus rien faire ensemble. Et lorsque notre identité est attaquée, on a un problème. Parce qu'on va commencer à se regarder comme ça et être perdu. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc notre société a appelé ça l'indépendance. Mais Dieu a appelé ça la rébellion. Amen. Adam et Ève se sont rebellés, tout comme Satan s'est rebellé et a suscité en eux cette question. Seras-tu moins grand, plus grand ou plus petit, ou peu importe ce que tu veux. Il a susurré cette question qui a semé le doute dans leur cœur. Donc, Adam et Ève ont d'abord perdu leur identité. Avant de perdre cette identité, ils ont perdu la communion. Vous le savez, la communion a été brisée avec le Père. Et de là, eh bien voilà, on ne sait plus qui on est. Et donc là, Genèse 3, verset 8 nous dit, « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. » Première conséquence du péché, c'est pas la honte, c'est pas la culpabilité, c'est pas la peur. La première conséquence du péché, je l'ai dit, c'est la rupture de la communion. Et Dieu dit, mais oh, où êtes-vous ? Et il va dire en Genèse 3, verset 9, où es-tu ? Lorsque Dieu dit, où es-tu ? Il sait très bien où ils sont, derrière le cocotier, là-bas, ou le palmier. Et c'est pas une question géographique. La question, c'est, est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où quelqu'un de proche change d'attitude envers vous ? Quelqu'un vous disait bonjour tous les jours et d'un coup il vous esquive. Vous sentez qu'il y a un problème. Vous avez pas... La première question que tu vas lui dire c'est « qu'est-ce que t'as un problème avec moi ?» Non, c'est pas ça, c'est à dire « pourquoi tu ne me dis pas bonjour ?» Tu vas interroger son cœur avec cette question. Tu comprends ce que je veux dire ? Et là Jésus dit « mais où es-tu ? » D'habitude, j'arrive, vous êtes là. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va plus dans notre relation. Et c'est ce qui se passe à cet instant-là. Dieu pose cette question. Il interroge leur cœur. Alors, on peut se poser cette question. Où en suis-je avec Dieu ? Et des fois, Dieu nous pose cette question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Tu es dans tes projets ? T'es dans tes objectifs, t'es dans tes problèmes, dans tes circonstances. T'as l'impression que t'as un décalage, qu'il y a un fossé entre toi et Dieu. Et d'un coup, t'entends ce doux murmure, « Alex, Alexis, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, moi je suis un râleur, donc je râle devant Dieu. « J'écoute pas, une fois. « Alexis, qu'est-ce qui se passe ?» Puis troisième fois, bon, c'est bon, je suis là, on va parler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou je suis tout seul ? Les Français, c'est des râleurs. Donc, il y a plusieurs râleurs ici. En bout de Dieu. Et on s'éloigne de notre relation. Donc l'homme qui ne reçoit plus son identité du Père va désormais la chercher partout. Tu as besoin de savoir qui tu es. Tu la chercheras dans le pouvoir, dans l'argent, dans la sexualité, même dans le ministère. Le ministère, l'appel à l'Église ne définira jamais qui tu es. C'est un service pour Dieu, point. Ça ne dit pas qui je suis. Dans la performance, dans le regard des autres, je l'ai dit. Et plus tu cherches ça, plus tu t'épuises. Et tu pries, mais Seigneur, qui suis-je? Mais quel est mon appel? Et machin, gna gna gna. T'es épuisé. Et Dieu ne parle pas. Alors, souvent, en fait, on ne peut pas trouver notre identité en dehors de notre relation avec le Père. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu, au départ. Vous serez fait à mon image, je serai proche de vous, et je veux une communion avec vous. Immédiatement, quand tu quittes cette communion, et vous l'avez déjà senti, tu commences à remettre toute ta vie en question. Et pourquoi j'ai fait tant d'enfants? Et pourquoi j'ai pris tel travail? Et pourquoi j'ai fait ceci? Et toutes ces questions-là sont susurrées par l'ennemi. Parce que ça t'attaque directement dans ce que tu es. Et là, tu deviens incapable de continuer ta marche avec le Seigneur. Alors, on reprend Luc 9, verset 23. Alors, après avoir annoncé sa mort, on revient dans le Nouveau Testament, Jésus va dire quelque chose. Et il va dire, Anna, tu peux remettre dans les premiers versets, Luc 9, verset 23, puis il dit à tous. À ce moment-là, Jésus, j'aimerais attirer votre attention sur cette première phrase. Puis, il dit à tous. Il n'est pas en train de parler qu'aux 12. Il est en train de parler à tous ceux. S'il est écrit qu'il dit à tous, c'est qu'il dit à tous ceux qui sont là. Vous voulez me suivre? Imagine, Jésus est là. Il parle à tout le monde. Il ne parle pas qu'aux pasteurs, il ne parle pas qu'aux prophètes, il ne parle pas qu'aux apôtres, aux enseignants. À tous ceux qui veulent le suivre, tous ceux qui veulent devenir son enfant, à tous, tu veux me suivre? Renonce à toi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pendant longtemps, on a entendu cette phrase et j'aimerais que vous arrêtiez de dire ça. S'il vous plaît, arrêtez de dire mon fardeau, c'est mon mari. Hein, les hommes, on va intercéder, mesdames. Les hommes, arrêtez de dire ma femme, c'est mon fardeau. Ma maladie, c'est mon fardeau. Mon patron, c'est ma croix. Mon divorce, c'est ma croix. Parce que tu vois, quand Jésus dit, à ce moment-là, il parle à tous ces gens qui sont devant lui, et il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce qu'ils comprennent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Parce que nous, sous cette histoire, sous cette expression qu'il se charge de sa croix, on met tout. Ma femme, mon travail, mes problèmes, sous la croix, il y a tout. Et le problème, c'est qu'on le définit tellement mal qu'on attribue à Dieu des choses qui c'est pas à lui. Pourtant, il nous dit clairement, renonce, charge-toi de ma croix. C'est-à-dire que ça a un sens profond. J'aimerais qu'on aille plus loin là-dedans. Qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque Jésus dit cette phrase, on est bien d'accord, il vient d'annoncer qu'il va passer par le calvaire. Donc, il n'a pas encore été crucifié. Donc, les disciples ne peuvent pas se projeter sur quelque chose qui est déjà arrivé. Vous allez voir, quand il va parler après sa résurrection, il va toujours faire référence à des choses qu'ils ont vécues avec Christ. Mais là, on n'est pas après la résurrection, on est avant. Donc, ce qui va arriver dans l'imaginaire des gens, ils connaissent très bien le supplice du calvaire. Et qu'est-ce qui se passait à cette époque? On te faisait porter ton bois horizontal. On ne faisait pas porter toute la croix, ce n'est pas possible. On te faisait porter le bois horizontal. Je ne sais plus c'est quoi son nom, mais c'est un nom. Et tu portais ça, c'était entre 50 et 60 kilos jusque là-bas. Et ce que ça disait aux gens, ça disait sa vie ne lui appartient plus. Ce n'est plus le moment de se défendre. Ce n'est plus le moment de discuter. C'est fini. Son sort est jeté. Et c'est ça qu'ils comprennent. Et c'était fait de manière publique. Les Romains faisaient ça pour quelque part faire peur. Si tu marches pas droit, voilà ce qui va t'arriver. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est cet homme ou cette femme n'est plus maître de sa vie. Et Jésus te dit, charge-toi de ta croix. Incroyable. Charge-toi de ta croix. Son procès est terminé. C'est fini. Il faut suivre. Tu prends ta croix, tu suis les soldats qui sont devant toi et tu vas au calvaire. Et souvent, on a interprété ça comme dans les églises, comme tu es enfant de Dieu maintenant, prépare-toi à souffrir. Et on va vous enseigner, il faut crucifier la chair. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, mais il faut apporter quelques nuances. Prépare-toi à souffrir. Les disciples n'entendent pas ça. Eux, ce qu'ils vont entendre, c'est accepte que ta vie ne t'appartient plus. Et c'est Jésus qui le dit. Renonce à toi-même et accepte fondamentalement que ta vie ne t'appartient plus désormais. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'on a repris avec Adam? On a repris le contrôle. On veut être les rois. Et là, Jésus dit maintenant, on va de nouveau changer de roi dans le cœur. Accepte que c'est moi qui deviendrai ton roi. Paul dira en Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Et la croix, ce n'est pas que histoire du salut. Souvent, on est la croix, le salut. Oui, le salut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont je vous parle. La croix dont parle Jésus à ce moment-là, c'est une question de règne. Qui règne sur ton cœur? Qui règne sur tes pensées? Qui règne sur ton corps? Accepte que ce n'est plus toi. Et c'est le combat qu'on doit mener. Il est écrit quoi? Charge-toi de ta croix chaque jour. Ah, chaque jour. C'est pas une question de souffrance ici. C'est d'accepter que ton ancien moi ne règne plus et que c'est Christ qui règne. Alors, il nous a délivrés voilà, du royaume du Fils de son amour. Donc vous voyez, il est question d'une royauté, le royaume du Fils de son amour. Donc on parle de Christ, Christ qui règne. Donc, finalement, on peut se poser la question, et je vous ai déjà répondu, est-ce que tout ce qui me fait souffrir est ma croix? Une question légitime, puisque tu pourrais très bien dire, je souffre dans cette situation, c'est ma croix, c'est pas grave, je vais continuer à souffrir. Et il y a des chrétiens comme ça, ils souffrent tout le temps, c'est toujours leur croix, tu leur dis, mais Dieu va te libérer. Non, c'est ma croix, c'est ma croix. Bah écoute, reste dans ta croix alors. Tu ne veux pas accepter que Dieu libère, que Dieu bénit, que Dieu guérit, que Dieu protège. Bah, ouais, c'est une mentalité. Hein. C'est une mentalité des anciens, ça. C'est normal de souffrir. Nous, à Chanel et moi, quand on était jeunes, on nous a dit, il faut manger votre pain noir. Ah bon? Parce que moi, j'ai galéré, tu dois galérer. Vous comprenez un peu la pensée? Parce que tu vas apprendre beaucoup. Il y a une forme de vérité, mais ce n'est pas vrai à 100%. Alors, on va parler de quatre confusions qu'il peut y avoir. Et on va répondre à quatre questions. Donc, il faut distinguer, dans le Nouveau Testament, distingue quatre choses différentes, quatre réalités différentes. D'accord? Et il distingue la souffrance, la première chose, et on va parler de la souffrance. Qu'est-ce que réellement la souffrance? La souffrance est une douleur que tu ressens. Elle peut être physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Une douleur. Il y a quelque chose en toi, ça fait mal. Tout le monde a déjà souffert ici ou suffisamment? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants quand ils tombent? Vous leur apprenez ou pas quand ils tombent? Il y a des parents ici? Ils tombent, ils se font mal, c'est la fin du monde pour eux. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ça va aller, ça va aller. C'est une douleur parmi tant d'autres et tu dois apprendre à gérer cette douleur. On leur apprend à gérer leur douleur. Ben nous, spirituellement, c'est pareil. Il y aura des douleurs. Il y aura des choses difficiles. Donc la souffrance, elle est humaine. Paul écrit en Romains 8, verset 22, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Toute la création souffre. S'il vous plaît, les chrétiens, arrêtez de faire de vos problèmes la souffrance ultime et il n'y a que vous qui souffrez. C'est insupportable. Je vous le dis, tout le monde souffre. Même quelqu'un qui te sourit, qui t'accueille à l'église à ses combats, il souffre. Mais il y en a, ils souffrent tellement qu'ils veulent qu'on les cajole. Parce que quand ils étaient petits, ils tombaient au lieu de lui dire, écoute, c'est vrai, t'as mal, on va frotter un peu, ça va aller, parce que tu sais, dans la vie, il y aura d'autres souffrances. On les a cajolés, mais ça va aller, mon petit amour, mon petit chéri, mon petit machin. Ça crée des adultes qui prennent une claque et il faut constamment les consoler. Ils sont pas capables d'affronter des défis, mais les défis seront là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, chrétiens, on est parfois comme ça. Ah, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, c'est douloureux. Ouais, très bien. Pardonne, avance. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Vous comprenez? Et donc la souffrance, eh bien, elle est pour toute la création. Même un riche souffre. Un pauvre souffre. Chacun a des degrés différents. Mais la souffrance, tout le monde la connaît. Les enfants, les vieillards souffrent. Tout le monde. Tout simplement parce que Paul nous dit la création est blessée. Si la création est blessée, je fais partie de la création, je suis blessé. Et parce que je suis blessé, je prends part à cette souffrance. Christ a pris part à cette souffrance. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière. Donc d'où vient la souffrance? Alors la Bible va nous montrer plusieurs sources de souffrance. Tu peux me ramener encore une bouteille d'eau, chérie, s'il te plaît? Désolé, j'ai la gorge avec la clim qui a été abîmée. Alors, la première chose, une des premières causes de la souffrance, je viens de le dire, le monde déchu. La vieillesse, c'est à cause du monde déchu. Les scientifiques ont prouvé, on le voit, que nos cellules étaient faites pour toujours se renouveler. Mais qu'à partir d'une certaine... un certain temps, on commence à vieillir. Ben, la vieillesse, c'était pas dans l'Éden. On vieillit, c'est une souffrance. À cause de qui? Eh ben, à cause du péché originel. Et c'est une conséquence. Tu vieilliras. Tu peux prier pendant 10 ans. Seigneur, je veux le miracle. Rester jeune et te croire dans le film, c'est quoi? Benjamin Button, là? C'est ça? Il naît vieux, il rajeunit. Non, ça t'arrivera pas. Parce que c'est comme ça. La terre a subi cette situation. Donc, la maladie, ça fait partie de la souffrance. La mort fait partie de la souffrance. Les catastrophes font partie de la souffrance. Les accidents font partie de la souffrance. Et donc, voilà pourquoi Jésus, à un moment donné, il pleure devant Lazare. Il pleure pas juste parce que c'est son ami. Il pleure parce qu'il est tellement triste de voir que la mort touche encore. Et son premier ennemi à Christ, c'est la mort. Il célèbre pas la mort, Christ. Elle est un ennemi. Paul dira, 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort elle-même a été vaincue à la croix, mais elle sera détruite quand Christ va revenir. Et il va se passer encore beaucoup de choses, mais la mort elle-même sera détruite. C'est son ennemi. Et il va s'en occuper. Mais pour l'instant, pour nous, on a des souffrances. Issu du monde déchu. Vous me suivez toujours? Alors, on a le deuxième point, je vous ai dit. Premier point, c'est le monde déchu. Premier point, c'est les conséquences de nos choix amènent des souffrances. David est pardonné pour son péché avec Bathsheba, mais les conséquences vont demeurer dans sa vie. Il a péché, il a pris une mauvaise décision, Dieu pardonne, mais il a des conséquences. Et certaines de tes souffrances sont dues aux conséquences de certains choix que tu as faits. Galates 6, verset 7 nous dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Et c'est pour tout le monde. Ensuite, troisième point, on peut souffrir des conséquences des choix des autres, de nos choix et des choix des autres. Ce qu'on va appeler parfois l'injustice. Joseph souffre. Pourquoi? Il souffre parce que ses frères l'ont vendu, ont pris la décision, on en a marre de lui, on le vend. Il subit cette souffrance. Jérémie va souffrir parce que le peuple refuse d'obéir à Dieu. Jésus souffre. Pourquoi? Parce que les hommes l'ont rejeté.
souffrance
des autres, à cause des autres. Ils viennent du fait des choix d'autrui. Tu peux même souffrir à cause de ta femme. Incroyable, hein ? Ou de ton mari, ou de tes enfants. Il y a des parents qui pleurent à cause des choix de leurs enfants. Et ils souffrent. Ils ont éduqué un enfant, l'enfant prend une mauvaise décision, a des conséquences sur toute la famille. Et tout le monde en pâtit. La souffrance. Et quatrièmement, vous voyez, j'ai fait exprès, je l'ai mis en quatrième. Quatrième, parce que celui-là, les chrétiens, souvent, ils mettent en premier. Quatrième, l'action de Satan. Le livre de Job nous montre que Satan peut s'occuper de nous s'il a envie. Il peut réclamer des choses. Dieu dirait également en Luc 13, verset 16, « Cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. » Satan peut essayer de nous amener dans la souffrance. Mais c'est en quatrième position. OK ? Mais on peut voir que le Nouveau Testament nous invite à ne pas tout attribuer à Dieu ou tout attribuer à Satan. Il nous invite à avoir du discernement entre mes choix. Je souffre à cause de mes choix. Je souffre à cause des choix de l'autre. Je souffre parce que, eh bien, c'est la vie. C'est la vie. Le monde est déchu. Mon voisin est méchant. Alors je souffre. Parce qu'il est méchant. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Que de toujours dire, mon voisin est méchant, je ne sais pas si j'aurais dû acheter cette maison, je ne sais pas si, et peut-être que je me suis trompé, et machin, et patati, et patata. Il y a des choses que tu vas subir, et puis c'est tout. Donc on ne peut pas tout attribuer à Dieu, ou tu as tout attribué à Satan. On doit grandir en tant qu'Église dans le discernement. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, que produit la souffrance ? Le produit de la souffrance ? Eh bien, la souffrance ne sanctifie personne. On a eu des histoires hein, dans l'Église, avec un grand E, où il fallait se flageller quand on avait fait un péché. Il fallait connaître les souffrances de Christ. Il fallait s'associer à ces souffrances. Eh bien, la Bible à aucun moment nous dit que la souffrance nous sanctifie. La souffrance est la souffrance. La souffrance est une douleur que nous avons, que nous vivons humainement. Et ce n'est pas quelque chose qui va nous rendre plus sains. À aucun moment. Donc refusez si on vous dit « tu souffres parce que tu es un mauvais chrétien » ou « il faut que tu souffres pour devenir un meilleur chrétien ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cœur de Christ. Par contre, ce qu'elle peut produire, la souffrance, et c'est quelque chose qu'il faut gérer. Étant donné qu'on va tous souffrir, elle peut produire deux choses. Elle peut produire soit la compassion. Tu vois, tu souffres de quelque chose, tu ouvres les yeux et tu dis « waouh, je regarde ceux qui souffrent différemment maintenant ». J'ai eu cette maladie et je me rends compte que, punaise, il y en a qui souffrent vraiment. Je vais avoir plus de compassion pour ceux qui sont dans la souffrance. Donc la souffrance peut produire une compassion en toi ou alors elle peut produire l'amertume. Et tu souffres, alors tu t'isoles. De toute façon, personne ne prend soin de moi, personne ne s'occupe de moi et je suis tout seul. Et de toute façon, ils devraient tous souffrir comme moi. C'est juste ou pas ? On a tous soit agi comme ça, soit connu des personnes qui ont agi comme ça. Vous voyez le poids de la souffrance qui est sur les vies. Vous voyez, lorsque le feu brûle, eh bien, il n'est pas en train de... Lorsque le feu brûle, il n'est pas en train de fabriquer son... Comment on dit ça ? Son... Aidez-moi. Son consommable ? Non, pas consommable, son... Si ? Son combustible, tu vois, je suis dans mon chantier là, mais consommable. Son combustible, le feu brûle, il n'est pas en train de créer son combustible, il est en train de révéler son combustible. La paille elle va brûler comme ça. Du bois, ça va être un peu plus long. Et lorsque le métal est en fusion, il demeure. Et ben, vous voyez, en tant que chrétien, parfois on passe par la souffrance et c'est en train de révéler, c'est en train de mettre à jour qui on est vraiment. Et on dit, de quel bois, on a cette expression, de quel bois tu te chauffes. Tu traverses une souffrance, de quel bois tu te chauffes. Tu es en train de te plaindre, de te lamenter, de pleurnicher, ou alors t'es consistant. T'as mal, c'est dur, mais tu vas pas bouger. T'es comme l'or qui est en train d'être éprouvé, là. Donc la souffrance produit des choses, et on doit gérer ça tant qu'on sera sur cette terre. On doit apprendre à le gérer. Alors, si la souffrance n'est pas la croix, si ce n'est pas cette expression, qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, le deuxième point que la Bible nous enseigne, c'est souffrance premièrement. Deuxième point, l'épreuve. C'est pareil. Nous, chrétiens, on met souvent beaucoup de choses sous le couvert de l'épreuve. On met tout et n'importe quoi là-dedans. Mon travail, ça va passer l'épreuve. Ma femme, c'est mon épreuve. À nouveau, je peux vous refaire exactement les mêmes phrases, mais avec le mot épreuve. Mais on va reclarifier un peu les choses. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, nous dit quelque chose. Je vais faire comme mon père, Chanel. C'est toi qui vas lire, parce que faut que je préserve un peu ma voix pour terminer.
Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien.
Excessivement clair. On prend ensuite tout de suite Jacques 1, verset 13.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne.
Donc je vais essayer d'être extrêmement précis. La tentation cherche à te faire tomber. Alors que l'épreuve révèle ce qu'il y a déjà en toi. Et c'est tout à fait différent. Garde ça en tête. La tentation cherche à me faire tomber. L'épreuve révèle ce qu'il y a déjà en moi. Lorsque vous passez un examen pratique, comme vous le savez, moi je suis menuisier, quand j'ai passé mon examen de menuiserie, que j'ai dû faire une réalisation, ce n'est pas à ce moment-là que j'étais en train d'apprendre la menuiserie, je l'ai appris bien avant. Mais au moment où je vais exécuter le projet pratique, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder mes gestes, on va regarder ma façon de me sécuriser, on va regarder le projet en lui-même. Est-il arrivé à l'aboutissement? Est-il précis? Est-ce que c'était carré? Est-ce que c'était bien fait? La feuille de débit était-elle bien faite? On va contrôler, on va tester que tout ce que j'ai appris est mis en pratique. Et bien pour Dieu, l'épreuve, c'est la mise en pratique. Écoute, t'es passé par ça, 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 ça. Maintenant, une petite épreuve, on va voir si, eh bien, tu tiens la route. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'épreuve, c'est pas pour Dieu. Ça aussi, on se trompe souvent. On pense que Dieu nous éprouve parce que ça lui fait plaisir et parce que lui, il se dit, mais lui, il sait si tu es capable ou pas. L'épreuve, c'est pour toi. C'est pour que tu te rendes compte de ton état d'avancement. Il y a des épreuves par lesquelles vous passez, où vous êtes là et tu vis quelque chose et tu te rends compte qu'il y a un décalage entre ta façon d'agir et ce en quoi tu crois. Et là, tu es là face à la feuille d'examen et tu dis, je ne sais pas comment faire. Et tu te rends compte que, oui, j'ai beaucoup de bonnes valeurs, j'ai beaucoup de bons principes, mais là, il faut pardonner. Et je n'ai pas envie de pardonner parce que je souffre. Je passe par ce feu de la souffrance, je dois pardonner, mais là, c'est l'examen. Est-ce que tu vas vraiment pardonner? Et là, tu vois, ça te révèle à toi-même où est l'état de ton cœur. Tu vois, quand Dieu, il vient, il dit, où es-tu? Vous êtes où? Et là, tu vois, ça parle. L'épreuve, ça interpelle ton cœur. C'est le, où es-tu? T'en es où dans cette situation? Et là, vous regardez Dieu, ah, c'est dur. L'épreuve, c'est ça l'épreuve. Abraham, Genèse 22, verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Pourquoi demander à Abraham Isaac? Dieu savait ce qu'il allait faire. C'était pour que Abraham puisse voir jusqu'où son obéissance était capable d'aller. Son obéissance était éprouvée. Maintenant, il faut y aller. Tu es prêt à y aller? Ah, j'ai parlé, j'ai dit que je te servirais, mais là, hein, souvent nous, on veut servir Dieu. Ah ben maintenant, ça y est, on y va, c'est parti. Ce matin, Anne, elle était éprouvée. Je suis arrivé en retard à l'intercession. Je dis, Anne, c'est toi qui conduis l'intercession, vas-y. Ah, elle a passé l'épreuve, le test. Donc c'est dans les bonnes choses comme dans les choses difficiles de notre vie. Il y a des bonnes épreuves. Il y a des choses où c'est un challenge. Vas-y maintenant. C'est le moment, t'es prêt. Gisèle, prophétise. C'est le moment. C'est bien, t'as fait les formations. Dieu nous pousse. Est-ce que tu vas relever le défi? Israël dans le désert, souviens-toi de Deutéronome 8:2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu garderais ou non ses commandements. Israël, on veut être le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Ok, bah maintenant le désert va éprouver vos paroles. Est-ce que vous êtes prêts à suivre? Le désert n'a pas créé leur incrédulité. Le désert a révélé leur incrédulité. Le désert n'a pas créé l'idolâtrie. Le désert a mis en lumière que c'était un peuple qui cherchait à idolâtrer quelque chose de plus grand qu'eux. Alors que produit l'épreuve? Jacques répond: la persévérance, la maturité et une foi éprouvée, une foi réelle, pas une foi de parole. Une foi éprouvée, c'est une foi qui a fait ses preuves. Il y a un défi, il y a une montagne à déplacer, on n'est plus dans une pensée religieuse, mais Dieu est grand, alléluia. Il y a une épreuve maintenant. C'est plus le moment de louer, c'est le moment d'attaquer la montagne. Vous voyez, c'est ça que ça produit l'épreuve. Une foi éprouvée, une foi digne de Dieu. La persévérance et la maturité. Alors maintenant, la troisième pensée, c'est la troisième réalité qui est différente de la croix, qu'il faut distinguer, c'est la discipline du Père. On l'oublie souvent, celle-là. On oublie que si Dieu est notre Père, eh bien, il exerce une discipline. Il nous discipline, ça veut dire qu'il va nous éduquer. Et là, on a ce verset qui nous dit, Hébreux 12, versets 5 et 6, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne prends pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Le mot châtiment ici, c'est un mot important. Quand vous l'étudiez, c'est un mot qui veut dire que ça amène à une éducation, comment expliquer, une éducation complète d'un enfant. Lorsque j'ai rencontré Chanel, j'avais 18 ans. Et on s'est mariés, j'avais 19 ans. Et mon père, il a dit à Chanel, va falloir que tu finisses son éducation. Vous comprenez? Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce qu'il y a des choses que je n'avais pas encore acquis. Et donc, j'ai acquis dans le mariage. Donc, l'éducation complète. Le rôle des parents, c'est d'éduquer complètement leurs enfants. Ce n'est pas uniquement qu'ils soient à côté de vous, qu'ils vous suivent partout. C'est de leur apprendre à affronter la souffrance, à affronter les défis, à vivre leur joie, à gérer qui ils sont, à gérer leurs biens, gérer leurs émotions. C'est ça le rôle d'un parent. Ce n'est pas être content parce qu'on a enfanté. C'est un travail énorme, parents. Parents, vous êtes incroyables. Hein, vous êtes incroyables. Mais c'est un défi de tous les jours. Donc le châtiment ici, c'est l'éducation complète. Dieu veut t'éduquer. Et parce qu'il va t'éduquer, il va te reprendre. À nouveau, attention, c'est l'éducation d'un père. Ce n'est pas la reprise d'un juge. Et souvent, on a une image de Dieu qui nous juge. J'ai mal fait, boum! Ce n'est pas cette image-là qu'il faut avoir. L'image qu'il faut avoir, c'est vraiment le cœur du Père, rempli d'amour. Vous voyez, quand j'étais menuisier, mon maître, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il regardait comment je travaillais et il allait me reprendre. Pas méchamment, pas parce que j'étais un mauvais gars, pas parce qu'il ne m'aimait pas, mais juste parce que le geste n'était pas correct. Alexis, fais attention, prends plutôt ton ciseau à bois comme ça, là tu vas te faire mal. Si tu fais ton ciseau comme ça, eh bien, s'il y a un problème dans le bois, tu vas te transpercer. Vous voyez, c'est pour mon bien. Il n'est pas venu, ah, c'est pas bien, tu fais mal, machin. Et beaucoup de chrétiens prennent la manière dont Dieu les reprend comme je ne suis pas assez bien, et de toute façon, c'est encore de ma faute. Et vous voyez, problème identitaire.
mais je suis faible, je suis malheureux.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors que Dieu te dit, mais non, c'est pour ton bien, je crois en ton potentiel. Et parce que je crois en ton potentiel, il faut que tu revoies les choses là. Parce que si tu fais différemment, ce sera mieux. C'est de cette manière-là dont Dieu nous reprend, dont Christ nous reprend. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, écoute, fais attention quand tu pries parce que c'est compliqué là. Voilà, c'est pas méchant. Mais tu n'es pas tout seul, tu n'es pas dans ta chambre. Tu n'es pas dans ta douche. Tu es avec 15 chrétiens, écoute. Parce que ta prière aura encore plus de valeur. Si tu vas entendre ce que les autres disent. Ouais, c'est pas méchant. Ah, le pasteur, il m'a dit ça, machin. De toute façon, moi, je suis conduit du Saint-Esprit. On entend ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on reprend avec Dieu, c'est avec amour. 9 à 10, on l'a lu. Oui, on va le lire, c'est important. Donc, vous allez voir. Tu peux mettre le verset suivant. Chanel, tu peux lire Hébreux 12, 9 à 10.
D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Enfin, l'objectif de la correction du Père, c'est que tu participes à sa sainteté. Et il faut garder ça en tête. Si tu ne gardes pas ça en tête, à chaque fois que Dieu va te reprendre, tu vas râler. Tu vas bouder et tu es reparti pour un tour. Et après, il faut retrouver la communion, retrouver la prière, retrouver le lieu secret et tu perds du temps. Accepte quand Dieu te reprend, ça ira plus vite. Ok ? Afin que nous participions à sa sainteté. La souffrance regarde souvent à ton passé. Garde cette phrase. La souffrance regarde à ton passé. Tu vois, tu t'es blessé, c'est ton passé. Au moment où tu souffres, c'est déjà passé. Ton passé, les souffrances du passé. L'épreuve révèle ton présent. Tu es comme ça. Tu penses comme ça, mais tu agis comme ça. L'épreuve révèle qui tu es réellement. Et la discipline que Dieu opère sur toi prépare ton avenir. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc à ce stade-là, tu vas me dire, mais écoute, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que je vis une épreuve? Est-ce que c'est ma croix? Est-ce que c'est une souffrance? Voilà, et j'espère que ça t'a déjà répondu pas mal. Mais le meilleur modèle, et on y reviendra toujours, parce que parfois, ces quatre réalités peuvent se rejoindre. En fait, tu peux vivre dans l'épreuve une souffrance, et une souffrance à cause de tes mauvais choix. Vous voyez ce que je veux dire? Qui devient une épreuve. Donc ces choses-là vont se mélanger dans notre réalité. Mais c'est important de distinguer pour prendre les bonnes décisions. Alors, on va voir le modèle qui est le plus beau. Et puis, je m'arrêterai là, je continuerai la semaine prochaine. On va regarder Gethsémané. Gethsémané, c'est l'exemple ultime. Jésus va tout vivre en même temps. Et ça va vraiment nous montrer que tout se croise et en même temps l'attitude de Christ. Alors c'est vraiment à ce moment-là un moment où on voit tout. On voit la souffrance, l'épreuve, la discipline et la croix. Donc Matthieu 26, verset 38 nous dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est Jésus qui parle. « Mon âme est triste », ses émotions, sa volonté, son raisonnement. Tout est chamboulé, tout s'entrechoque, son âme. Tout ce qu'il est en tant qu'homme souffre jusqu'à la mort. Incroyable. On verra dans Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Moi, j'ai déjà été anxieux à ne pas dormir. J'ai déjà souffert dans ma chair à ne pas dormir. Mais j'ai encore jamais connu la souffrance jusqu'à avoir des grumeaux de sang. Donc c'est pour vous dire que Christ vivait une souffrance spirituelle, émotionnelle, psychologique, dans sa chair extraordinaire, avant même qu'on ait mis la main sur lui. C'était dans sa tête, dans ses pensées, dans ce qu'il y avait entre ses deux oreilles. Est-ce que tu as déjà souffert comme ça? On ne t'a pas touché, mais en toi ça bouillonne. Tu n'es pas bien.
ton âme souffre.
Jésus l'a connu. Jésus est éprouvé, Matthieu 26, verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà l'épreuve. Parce qu'à ce moment-là, l'épreuve va révéler ce qu'il y a dans le cœur de Christ. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En fait, à ce moment-là, c'est une épreuve où Dieu va... Comment expliquer ça? Ce qui se passe, c'est que l'obéissance envers le Père est éprouvée. Il sait ce qu'il va subir. Il souffre. Vous voyez, il vit la souffrance. Et l'épreuve, c'est d'obéir jusqu'à la fin. Amen. Dieu n'est pas en train d'apprendre à Jésus à obéir. Il a obéi depuis qu'il est né. Mais il est en train de, Jésus est en train de vivre. J'obéis, mais je vais obéir jusqu'au bout. Ça coûte. C'est une épreuve folle. Je vais obéir jusqu'au bout, sachant ce que je vais subir. Incroyable. Jésus est passé par l'épreuve. L'épreuve révèle ton identité, révèle ce qui tu es vraiment. Ensuite, troisième point, Hébreux chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est ce que je viens de vous dire. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance en traversant la souffrance. Et toi, tu veux obéir à Dieu sans souffrir. Et moi, je veux obéir à Dieu sans souffrir. Je veux la gloire sans traverser la souffrance. Nous traverserons la souffrance. C'est important de le saisir. Donc, il a appris l'obéissance. Alors, il faut être prudent avec ce verset-là pour ne pas comprendre ce qu'il ne faut pas comprendre. C'est un passage quand même difficile. Donc, je vous l'ai dit, il ne faut pas croire que Jésus a été corrigé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus était conduit. Et Jésus était formé toute sa vie à pouvoir accomplir la croix. Donc, il a traversé des épreuves pour arriver jusqu'au calvaire. Il n'est pas arrivé au calvaire comme ça. Le Père forme ses fils. Si tu dis que tu es fils de Dieu, que tu veux que Dieu te parle, que Dieu t'utilise, tu dois accepter que Dieu va te former. Si tu n'acceptes pas ça, fais demi-tour, rentre chez toi, mets-toi devant la Coupe du Monde, tu vivras mieux ta vie, il vaut mieux être froid ou bouillant. Tiède, ça ne sert à rien. Chrétien, tiède, tu seras frustré, tu seras fatigué parce que les valeurs, tu n'arrives pas à les appliquer, parce que tu ne vis pas les choses de l'esprit, mais tu es tout le temps sur ta chair. Faut pas que je fasse. Tu es frustré, moi je ne t'invite pas à cette vie-là. Ce n'est pas la vie du chrétien, ça. Ça, c'est la religion qui t'amène là. Mais la vie du fils, c'est d'affronter la chose. Dire, c'est dur pour moi le pardon. Jésus, t'as souffert plus que moi. Il faut vraiment que je m'accroche à toi. Parce que je veux pardonner, mais j'y arrive pas. C'est mon épreuve. Je pardonnerai. Ça marche? Et c'est là où on en arrive au quatrième point. Je conclue avec ça aujourd'hui. Quatrième point. Voilà ce que veut dire porter sa croix. Garde le bien en tête. C'est ce que je viens de dire à l'instant. La croix, c'est que personne n'a obligé Jésus à donner sa vie. Il écrit en Matthieu 26, versets 52 à 53, qu'à un moment donné, Pierre, qu'est-ce qui se passe? La Gethsémané, il dégaine son épée et il est dit, remets ton épée à sa place. Penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il n'y a pas une question que sa puissance soit remise en question à ce moment-là. Il va dire, Pierre, arrête ça. Ce n'est pas ça l'objectif. Je sais où je vais. Et plus tard, Jean 10, verset 18, personne ne me l'ôte, ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà ce qu'est la croix. C'est ça la croix. Quand Jésus te dit, porte ta croix, c'est ça la croix. C'est une obéissance libre. C'est de dire, Seigneur, je t'obéis parce que je t'aime. Mais mon obéissance aujourd'hui va me coûter dans mon travail. Mais je choisis de t'obéir librement, même si on me met dehors. Parce que c'est contre tes valeurs. Ça, c'est porter ta croix. Tu seras face à des moments où on va te proposer de mentir, de corrompre ton cœur. Et là, tu diras stop.
Maintenant, je porte ma croix. Je choisis Christ plutôt que le mensonge. Et ça va me coûter. Ça va peut-être me faire passer dans l'épreuve financière. Ça me fera peut-être toucher à la souffrance. Mais Seigneur, je l'ai choisi parce que je choisis que tu règnes dans mon cœur et non pas le mensonge. Je choisis, jeune Jean, je choisis de rester pur avant mon mariage. Pas parce qu'il faut, pas parce que l'Église l'enseigne. Je choisis de rester pur parce que j'aime Christ. J'aime Christ, ça me coûte, parce que ça chauffe. C'est difficile peut-être, mais je choisis d'apporter la grâce dans mon mariage. Je choisis d'apporter la main de Dieu dans mon mariage. C'est important. Voilà ce que la croix fait. Donc, la souffrance est une douleur, l'épreuve une révélation, la discipline c'est une formation, et la croix est une obéissance volontaire qui accepte le coût de la fidélité pour Dieu. Être fidèle devant Dieu va nous coûter, mais tu l'acceptes. Si tu es fidèle pour être fidèle, le coût, tu ne seras pas prêt à le payer, tu seras un chrétien triste. Par contre, combien de fois est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez payé le prix pour Christ. Vous avez refusé quelque chose. Vous êtes resté dans votre identité en Christ. Vous avez perdu. Vous avez été lésé. Mais vous avez été rempli de joie. Parce que vous sentiez qu'à ce moment-là, ah, Seigneur, j'ai ta paix. Et vous avez dit, je ne troquerai pas ma paix. Je ne troquerai pas ma joie pour un salaire un peu plus élevé, mais je dois bidouiller et je dois mentir. Ça, c'est hors de question. Et je garde ma joie. Je préfère avoir 300 euros en moins et être en paix avec mon Seigneur que 300 euros en plus et corrompre mon cœur. Je vous donne l'exemple du travail, parce que le travail est important. Donc, je conclue. Il est écrit que vous devez rester sur ce message-là, cette pensée-là. Jésus dit, renonce à toi-même et prends ta croix. Prends ta croix. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu choisis volontairement. Prendre ta croix, tu le choisis. Donc, on ne prend pas un cancer. Ce n'est pas la croix. On ne prend pas un cancer. On ne prend pas un deuil. Ça te tombe dessus. Ce n'est pas la croix. On ne prend pas une trahison. Elle te tombe dessus. C'est des choses qui nous arrivent, ça. C'est des souffrances, peut-être des épreuves, mais ce n'est pas des choses que tu prends. Par contre, on va prendre la décision de pardonner. On prend la décision de rester pur. On prend la décision de dire la vérité. On prend la décision de bénir ceux qui nous maudissent. Ça, c'est une croix. Bénir. Moi, c'est dur pour moi, ça. Ceux qui me maudissent, ils m'énervent. Mauvais pasteur, vous voyez? Ceux qui me maudissent, ils m'énervent. Et je dois prier, Seigneur, je dois prendre cette croix-là. Parce qu'en fait, c'est toi que je veux suivre. Peu importe ce qu'on dit de moi. C'est toi que je veux suivre. C'est dur pour moi, je vous le révèle, c'est dur. C'est ma croix. Rester fidèle à ta femme, à ton homme, à ton Dieu, c'est rester fidèle. Vraiment, c'est ça la croix. Rester vraiment fidèle à Dieu. Donc, la souffrance et l'épreuve font partie de la foi. Mais la croix, c'est l'amour de Dieu que je choisis. Donc, on veut vraiment se dire que la croix, c'est important. La croix, ma croix, comme je vous disais, ce n'est pas la croix de Pierre. La croix de Pierre n'est pas la croix de Wilfried. La croix de Wilfried n'est pas celle de Audrey, etc., etc. Donc, ce qu'on veut voir les uns chez les autres, ce n'est pas se comparer. Ce n'est pas dire, mais lui, sa croix, elle est plus lourde, tu comprends, Seigneur, moi, c'est encore beaucoup plus lourd. Vous voyez la comparaison entre chrétiens. Insupportable aussi. Arrêtez ça. Ta croix, c'est pas la mienne. Par contre, ce que tu vas regarder chez l'autre, qui est intéressant, c'est ça qu'il faut regarder. Comment, au travers de sa croix, il te reste fidèle, Seigneur? Ça doit t'inspirer. Parce que tu vas dire, waouh! Il porte ou elle porte sa croix de manière incroyable. En plus, il est classe dans sa façon de la porter. Beau gosse, le gars, avec son truc. Non, mais quand je veux dire ça, c'est... Il le vit bien, quoi. Il vit bien sa croix. Il connaît sa croix. Avec Dieu dans sa croix. Seigneur, t'es que moi, t'as dit, qui me suive? Je suis en train de te suivre avec ma croix. Je suis pas n'importe qui.
Donc je suis confortable même dans cette croix-là. Ça me coûte de rester fidèle, mais je suis bien avec toi, Seigneur. Tu continues à déverser ta paix, ta joie, ton amour. Et là, tu vas voir quelqu'un comme ça dans l'église, tu vas dire, incroyable ! Il faut que je fasse comme lui. Là, ma croix, faut que je la prenne. Il faut que je la prenne. Et le problème, ce qu'on fait avec la croix, c'est que des fois, on la dépose et on dit, j'en ai marre. Je veux plus, Seigneur. Et de toute façon, je viendrai plus le dimanche. Et la prière, ça m'énerve. Parce que de toute manière, il ne se passe rien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ennemi qui commence à susurrer. Tu as déposé ta croix. Et bien, à ce moment-là, au moment où tu déposes ta croix, tu ne suis plus Christ. Tu perds la paix, tu perds la joie, tu perds tout. Et tu deviens un chrétien qui est quoi? Un chrétien qui est tiède. Tu me suis ou tu ne me suis pas? J'espère ne pas t'avoir endormi. Je m'arrête pour aujourd'hui. J'aimerais que tu digères ça. Et que la semaine prochaine, on puisse aller plus loin. On développe tout ça. On met en pratique. Alors Seigneur, ce matin, on a fait la différence entre ces quatre réalités que sont, Seigneur, la souffrance, l'épreuve, la discipline, Seigneur, et la croix. Seigneur, on veut grandir en discernement au travers de l'enseignement de ta parole et aussi au travers de l'exemple que tu nous donnes, Jésus. Tu as traversé tous ces états et tu es resté fidèle. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens timides, des chrétiens tièdes, mais nous voulons être des fils et des filles. Seigneur, je veux briser, Seigneur, tout esprit d'orphelin qui nous amène à courir après une identité qui n'est pas la nôtre. Seigneur, nous nous trouvons en toi. Et lorsque, Seigneur, tu nous parles, lorsque, Seigneur, nous te suivons, eh bien, nous nous trouvons en toi, Seigneur. Tu nous révèles comment tu nous as conçus dès le sein de notre mère. Tu dis que tu nous as tissés, Seigneur. Et lorsqu'on passe par l'épreuve, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de débusquer les faussaires de nos vies. Seigneur, de débusquer les mensonges dans nos cœurs qui nous définissent comme tu ne nous as toi-même pas définis, Seigneur. Seigneur, toutes les pensées, Seigneur, d'amoindrissement, nous les chassons dans nos cœurs. Tu nous as fait pour qu'on soit plus que vainqueurs. Alors Seigneur, ça suffit, ces pensées, je suis nul, je suis pas assez, je n'arriverai jamais. Seigneur, ça c'est pas toi. C'est le malin qui susurre à nos oreilles. On refuse maintenant. Seigneur, on veut avoir ce discernement sur nos cœurs. On veut avoir ce discernement sur nos vies. Tu as donné, Seigneur, à chacun d'entre nous une personnalité particulière, une identité attachée à ton règne, une identité attachée à ton royaume, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous identifier aux choses de la chair, aux choses de ce monde, Seigneur, qui sont passagères et qui nous décevront quoi qu'il arrive. Seigneur, nous usons de ce monde, nous pratiquons ce monde, mais nous pratiquons surtout la justice, la vérité, la paix, Seigneur. Alors Seigneur, je te prie de demeurer en nous aujourd'hui, de travailler nos cœurs quant à cette parole, et que Seigneur, réellement, Seigneur, nous vivions et nous pratiquions, Seigneur, eh bien cette discipline avec toi, Père. Amen.
Amen.
Soyez bénis. On pense à la famille Nzamba, s'il vous plaît. On peut prier pour vous quand même, hein, pour cette semaine. Allez, venez avec nous devant. Église, on se soutient les uns et les autres. Un deuil est une souffrance. Ok, on en passera tous par le deuil. Et on va prier que Dieu les accompagne au travers de cette souffrance, les fortifie, les remplisse.